10h, 11h sur RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et bienvenue dans cette nouvelle émission qui traite des épilepsies chaque mois. Ce matin, ensemble, nous allons évoquer la thématique de la médiation animale. On est ensemble en direct et jusqu'à 11h.
10h, 11h sur RCN. Et puis c'est tout.
Je suis très heureux d'être accompagné ce matin de notre chère Céline. Comment va Céline ? Bonjour Céline.
Ça va bien. Salut Thomas.
Ravi de te retrouver comme chaque mois autour de ce studio et de ce micro. Je rappelle Céline que tu fais partie de ce qu'on appelle l'équipe Relais Handicap Rare.
Oui, on accompagne des personnes en situation de handicap plutôt complexe, souvent grave, on peut le dire comme ça. Et on a la mission de chercher avec eux, avec leur entourage, les parents, les professionnels, des solutions d'aide qui souvent manquent, sont manquantes, pour que leur qualité de vie soit la meilleure possible.
Et puis maintenant, depuis presque 3 ans...
On peut dire qu'on anime ensemble l'émission Épice et tout,
exactement,
dont la deuxième saison va se terminer en ce mois de décembre, et nous redémarrerons en février pour la troisième saison avec plein de nouveaux sujets.
Et on est très très heureux de poursuivre cette aventure ensemble et de continuer de discuter, de parler de cette maladie qui, on rappelle, une maladie qui est la maladie neurologique, la deuxième la plus répandue au
deuxième
monde.
Maladie, ouais.
Avec nous également ce matin, je suis très heureux de vous accueillir autour de ce micro, il y a Audrey Morel. Bonjour Audrey.
Bonjour Thomas.
Vous êtes éducatrice spécialisée à la MAS Épi Grand Est. La MAS, c'est la...
C'est la maison d'accueil spécialisée.
Voilà, qui dépend de l'OHS, hein, si
oui,
je dis pas de bêtises.
Ça.
Également avec nous, Michel Thirion. Bonjour Michel.
Bonjour Thomas.
Michel, vous êtes résident dans cette fameuse maison d'accueil spécialisée. Et tout à l'heure, vous nous témoignerez comment ce contact avec l'animal, comment vous le vivez, hein, tout simplement. On va évoquer ça tout au long de cette émission. Avec nous en ligne également, Rachel Lafont. Bonjour Rachel.
Oui, bonjour Thomas.
Vous êtes psychomotricienne à la TEP. Alors la TEP, en un mot, c'est quoi ?
L'Institut LATEP, c'est un établissement qui existe depuis plus de 160 ans et qui est spécialisé dans les épilepsies pharmaco-résistantes.
Très bien. Et vous avez mené une étude et un projet de recherche sur la médiation animale. Et vous nous expliquerez dans un instant justement quel a été l'objet de cette recherche et puis ce que ça donne surtout, bien entendu. Alors, vous le savez, chaque mois, quand on démarre cette émission, on commence par l'interroger des gens dans la rue sur la thématique. Ce matin, la première question qu'on est allé poser aux gens, c'était quoi ?
Alors, la première question très générale, qu'est-ce que la médiation animale selon vous ? Peut-être qu'on peut dire qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui ont fait un amalgame entre la médiation animale et les chiens détecteurs de crise dont on entend de plus en plus parler et qui feront l'objet, enfin ce sujet fera l'objet d'une prochaine émission. Donc on a centré les réponses autour de la médiation animale uniquement.
Donc la médiation animale, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça fasse du bien à des gens, oui.
J'en ai aucune idée.
Je ne sais pas du tout.
Aucune idée. Servir des animaux pour faciliter la communication avec les personnes malades et puis les soignants.
La thérapie.
C'est apporter des animaux aux personnes qui sont dans un épileptique, par exemple, ou dans les personnes, chez les personnes âgées. Voilà, ça se fait aussi chez les autistes, chez plein de personnes comme ça. Et les animaux leur apportent quelque chose.
Ça va être un moyen d'apporter une aide à quelqu'un avec, en passant par l'intermédiaire de l'animal, du contact avec l'animal, du soin aux animaux. À quelqu'un qui aurait un problème particulier à résoudre. Et du coup, on va pouvoir passer par ce biais-là pour l'aider à se sentir mieux, on va dire.
On imagine des fois, on entend parler de psychologues pour les animaux. Ou peut-être que c'est ce genre de cas de figure. En termes de médiation.
On se sert des animaux pour peut-être arriver à calmer la personne, à la mettre dans un état de plus réceptif, on va dire, aux soins.
On a quand même quelques réponses qui sont assez proches, je pense, de ce qu'est la médiation animale. Je vous propose peut-être d'une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre. Audrey, par exemple, là, vous entendez des gens qui nous expliquent. Alors, on a entendu cette personne qui nous parle de psychologue pour animaux. Je pense que là, on n'est pas forcément dans le sujet. Mais vous retenez quoi de ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, ce que je retiens, c'est que, en effet, les animaux sont là aussi pour apporter un soutien aux personnes. Moi, je vois notamment... au niveau des résidents de la MAS, c'est vrai que dès qu'il y a les animaux, oui, ça leur apporte un soutien, ça leur apporte un certain bien-être. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une plus-value à inclure la médiation animale pour des personnes comme celle-ci.
Rachel, on entendait des gens qui parlent de faciliter la communication. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi vous retenez quand vous parlez de médiation animale ?
Oui, complètement. Nous, ce que nous avons observé, c'est qu'on a des patients qui, des fois, sont en difficulté pour s'exprimer. Mais le chien, lui, n'a pas besoin de l'expression verbale parce qu'il a une très bonne lecture du corps du patient. et il a la possibilité de savoir déjà le patient dans quel état d'esprit il est quand on commence la séance et de faire des propositions adaptées. Donc c'est vraiment un levier pour nous d'un point de vue communication quand elle n'est pas facilitée chez les patients. Le chien, lui, avec sa façon d'être avec le patient, va entrer en communication de façon non verbale. Il va pouvoir se coucher à côté d'un patient, il va pouvoir le stimuler pour qu'il se mette en mouvement et il s'adapte en fait à ce qu'il ressent de la personne à ce moment-là, de son état émotionnel.
Quelqu'un parlait de calmer les personnes, notamment peut-être au moment des crises. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez aussi quand on parle de médiation animale?
Oui, complètement. Et même avant les crises, effectivement, il y a des chiens qui détectent les crises d'épilepsie, qui peuvent prévenir leur maître qu'il y a une crise qui va survenir, le patient va déjà être plus rassuré, il sait qu'il va pas tomber, qu'il va pas se faire mal s'il va se positionner en sécurité avant. Nous, ce qu'on observe en séance, c'est quand il y a une crise, le chien il peut approcher tout doucement du patient et venir le réconforter si le patient est encore un petit peu confus ou si s'est blessé malgré tout. Donc le chien va avoir ce réconfort physique comme on l'entend dans les témoignages où un chien, on va pouvoir le caresser, on va pouvoir juste être là avec lui, sentir sa respiration. Et ça, c'est des choses toutes simples, mais qui vont permettre un apaisement.
On en reparlera évidemment, on détaillera tout ça dans un instant. Il y a quelqu'un qui parle aussi d'apporter du soin aux animaux. Audrey, c'est quelque chose aussi qui est important dans la médiation animale, le fait de dire à vos patients, on va aussi s'occuper des animaux.
Oui, c'est très important parce que c'est vrai que c'est donnant-donnant. Autant les animaux viennent pour apporter quelque chose aux résidents, mais d'un autre côté aussi, les résidents doivent apporter quelque chose aux animaux. Et forcément, ça passe par le soin, donc le nourrissage. Ensuite, on peut avoir des séances où les résidents vont brosser les animaux.
On reparlera de ce que vous faites après avec eux, hein, mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait aussi partie du jeu de la médiation animale. L'animal aide et prend soin quelque part du patient, mais le patient prend soin aussi de l'animal.
Voilà, c'est tout à fait ça.
On va continuer avec la deuxième question qu'on est allé poser aux gens dans la rue, Céline.
Ouais. Pour vous, quels bienfaits les animaux peuvent-ils apporter d'une manière générale? Et dans le cas d'une épilepsie active, quels bienfaits complémentaires voyez-vous?
Le bienfait de l'animal d'une manière générale, j'imagine si on en prend soin, on lui apporte quelque chose aussi. Donc ça fait du bien d'apporter quelque chose, sans jugement peut-être en retour aussi de la part de l'animal. Après, par rapport à l'épilepsie, c'est vrai que je connais pas assez pour savoir quel bienfait ça pourrait apporter. Dans la prise en charge du stress en général ou de l'anxiété, c'est vrai que le contact avec l'animal, là je l'imagine bien que des séances apaisantes, ça pourrait peut-être apporter un plus.
Du calme, de la douceur.
Et ça fait quoi?
Eh bien, ça les calme.
Donc, le fait de les caresser, de les toucher, d'avoir des textures qui sont douces.
D'abord leur respiration.
Voilà. Suivant les animaux.
Leur ronronnement.
Donc ça peut que apaiser dans toutes les maladies, effectivement, où on a besoin de calmer le patient.
Pour beaucoup de gens, c'est à la fois un réconfort.
Je pense que la sociabilité avec l'animal, ça peut favoriser de l'oxytocine, l'hormone du bonheur, genre de choses, quoi, en fait, je pense, quoi. Ça peut apaiser, peut-être de réduire son anxiété, mais je vois pas comment elle pourrait changer le schéma neuronal, en revanche.
Ça, je pense, ça va dépendre pas mal de la gravité de l'épilepsie, parce que c'est très, très variable en fonction du patient, mais je pense que ça doit apporter, pour les cas les plus sévères, un lien à nouveau avec un lien social. Ça peut stimuler de manière positive les patients. Ça ouvre des conversations entre patients, mais aussi avec le médiateur qui accompagne l'animal. Ça peut amener un peu de détente et de légèreté dans une situation de soins qui est parfois très compliquée.
Je ne saurais pas dire spécifiquement pour l'épilepsie, mais je pense que la présence animale peut avoir un effet de calme, relaxant pour la personne.
Alors un chat, par exemple, un peu de la douceur quand il ronronne ou un truc comme ça.
De la joie, du bonheur. Ça déstresse aussi, des fois. Et quand on est triste et qu'il y a le chat qui arrive, ça fait du bien de le caresser, quoi.
Déjà, il nous ramène à l'essentiel. Quand on les côtoie, on est dans une relation vraie avec eux. Ils sont pas sur leur portable, ils ont pas d'idées terribles derrière, sauf « donne-moi mes croquettes ». Et ça nous recentre sur l'immédiat. Donc ça permet d'apaiser les ruminations, les angoisses. Pour tout le monde, il n'y a que des avantages de toute façon.
relation vraie, finalement, ils n'attendent qu'une chose, c'est effectivement qu'on leur donne les croquettes, c'est ce qu'on entend. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Audrey, peut-être, justement.
Oui, parce que les gens disent c'est vrai. Après, j'ai tiqué sur le monsieur qui a dit que ça dépendait du degré de l'épilepsie. Oui. Je suis pas forcément d'accord, parce qu'on peut avoir des gros criseurs. Nous, c'est ce qu'on appelle les gros criseurs. Ouais. Et la médiation aura exactement les mêmes effets que les autres. On remarque une diminution des crises, en tout cas lors des séances de médiation. Et c'est vrai que quand une séance est en cours, par exemple à la masse, on rentre dans une bulle, mais de calme total. Mmh. Et même nous, on n'a jamais vu ça. Nous qui sommes tout le temps dans le quotidien, ouais, où ça bouge beaucoup. C'est vrai que là, pendant les séances de médiation, c'est vrai que c'est le calme plat. Et même nous, en fait, on profite des effets de la séance sans le vouloir forcément.
Rachel, on parle de calme, d'apaisement beaucoup, effectivement. En tout cas, c'est ce que nous remontent les gens. C'est aussi ce que vous ressortez, vous, du travail que vous faites aujourd'hui sur la médiation animale ?
Oui, complètement. Je rejoins les propos d'Audrey. On voit plus de calme. Et au-delà du calme, on voit plus d'attention. Les patients sont plus disponibles. C'est comme si ce calme leur permettait d'être plus présents dans la relation. Et ça, c'est vraiment une qualité de relation qui est très importante. Et ce que je trouve intéressant dans les réponses qui ont été apportées, c'est qu'il y a vraiment un côté naturel. C'est naturel pour les personnes d'être en contact avec un chien, avec un chat. Ils vont savoir qu'est-ce qui est apaisant, si c'est le caresser, si c'est écouter ta respiration, ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment une affiliation naturelle entre les humains et les animaux, et je trouve ça vraiment vraiment scotchant tout ce que ces gens ont pu dire sur le micro-trottoir, malgré le fait qu'ils connaissent peu la médiation animale, mais ils ont quand même des prémices de choses qu'on pourrait faire avec.
Donc est-ce que finalement c'est pas quelque chose qu'on ressent tous au contact d'un animal finalement?
Bah, les études montrent que quand même on a une affinité particulière avec certains animaux domestiques. Donc je pense qu'il y a un sentiment partagé de relations facilitées naturelles avec les animaux, si on n'a pas de phobie évidemment.
On a entendu parler aussi de sociabilité que permet l'animal. C'est pareil, c'est quelque chose qui vous touche quand vous l'entendez, Rachel?
Oui, je me permets de rebondir.
Bien sûr.
Justement, l'étude qu'on a fait avec l'ATEP et avec une étudiante en master en éthologie, on a filmé nos séances et justement elle a mesuré les interactions sociales au fil des séances. Et dans les premières séances, il n'y avait pas trop d'interactions sociales, et plus les patients ont été en contact avec le chien et ont fait ces séances, plus ils ont été en interaction à la fois eux-mêmes et le chien, et eux-mêmes entre eux psychomentaient ce que faisait le chien. Donc je trouve que c'est aussi, elle appelait ça un catalyseur social, le fait que ça permette d'être plus en relation. Et c'est vrai, comme disait une personne, on a une relation vraie, pas des personnes qui sont devant leur téléphone et qui ne communiquent plus. Là, c'est du vrai de vrai, et effectivement le chien va permettre d'augmenter ce côté social qui est très important dans des établissements comme les nôtres, où les patients sont là pendant des années et des fois ils sont un peu coupés socialement de par leur épilepsie ou de par le fait d'être dans un établissement de soins et pas à l'extérieur dans le milieu commun.
Il y a quelqu'un qui parle aussi d'une relation sans jugement, Audrey.
Oui, alors c'est vrai que Les résidents qui sont en séance sont tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence, même s'ils ont des maladies qui peuvent être différentes. C'est vrai que là, comme on dit, au niveau du social, c'est vrai qu'ils rentrent en interaction plus facilement entre eux, à force d'être toujours dans les mêmes groupes. Ils se reconnaissent, ils reconnaissent les animaux. Et c'est vrai que c'est vraiment un facteur positif, même pour eux, entrer en relation entre eux.
On va écouter maintenant la troisième et dernière question, et surtout les réponses qu'apportent les gens dans la rue. Céline, c'était quoi cette question?
Si vous étiez atteint, donc une question un peu plus difficile en termes de projection.
Plus personnelle presque.
Si vous étiez atteint d'une maladie chronique comme une épilepsie pharmacorésistante, souhaiteriez-vous participer à des séances de médiation animale?
Quand on est atteint d'une maladie chronique et qu'en plus, s'il y a des résistances au traitement classique, j'imagine qu'on a bénéfice à essayer, en tout cas la médiation animale. Ouais.
Je vois très bien les bénéfices que ça peut avoir, et même à part si on a une phobie extrême ou si on a des grosses allergies, je ne vois que du positif dans ces interactions. Oui. Si j'étais atteint, je pense que je participerais à ce genre d'atelier et j'en serais content.
Pour mon rapport personnel aux animaux, ça me touche particulièrement et j'apprécie beaucoup leur présence, quelle qu'elle soit. Donc Je vois pas d'objection à ça.
Je pense en tout cas que c'est une des solutions, effectivement, qui ne soit pas médicale et qui apporte du bien-être. Donc si j'étais dans un cas comme ça, oui. Oui, je le ferais.
Ok.
Je pense que c'est une bonne initiative.
Oui, je pense. Ça ferait moins stressé.
Les animaux nous acceptent toujours tels qu'on est. Les chats, je sais pas, je côtoie moins. Mais les chiens, en tout cas, j'ai pas de poney, j'ai pas de canard et tout. Mais il n'y a plus grand monde qui nous accepte tel qu'on est. Donc non, vraiment, plongez tous et vive la médiation animale. Oui, oui, oui.
C'est un sacré message que nous donne cette dernière personne. Il n'y a plus grand monde qui nous accepte tel qu'on est, à part les animaux. Une réaction peut-être, Audrey, à ce qu'on vient d'entendre?
Ah bah, c'est sûr que ça résume tout à fait le pourquoi on fait de la médiation animale. C'est vrai que bah, l'animal n'a pas de jugement et que tout le monde peut être naturel. Et, moi, je suis totalement d'accord avec cette dame, oui.
De votre côté, Rachel, vous nous parliez il y a quelques instants du fait qu'il y a... j'ai oublié le fil de ma question parce que je réfléchissais à ce que venait nous dire Audrey. Mais peut-être, je vous donne la parole, Rachel, par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui vous fait réagir, là?
Moi, ce qui me fait réagir, c'est le côté non médicamenteux.
Ouais.
Où ça me touche d'autant plus parce qu'étant psychomotricienne, on est dans de la médiation qui est paramédicale. Et la complexité avec les épilepsies pharmacorésistantes, c'est que la médication est importante parce que l'épilepsie résiste et du coup, les neurologues sont obligés de trouver un équilibre fin entre limiter les symptômes de l'épilepsie, mais pas non plus trop donner de médicaments pour pas que le patient il soit embêté par trop d'effets indésirables. Donc je trouve que une médiation animale peut permettre d'améliorer, comme on disait, la qualité de vie et des symptômes qui peuvent être dépressifs. Et si, du coup, les médecins ont un peu moins de médicaments à donner parce que le patient se sent mieux, parce qu'il bénéficie de séances comme ça, je trouve qu'il y a un réel avantage de ce point de vue non médicamenteux, en tout cas.
Vous utilisez le mot d'avantage, on a entendu aussi beaucoup le mot de bénéfice. C'est-à-dire que les gens, quand on les interroge là-dessus, disent que ça doit avoir beaucoup de bénéfices.
Oui, nous, auprès des patients qu'on a pu intégrer à nos séances de médiation animale. Déjà, ils ne voulaient pas quitter les séances. C'était un contrat de 10 séances pour qu'on puisse toucher un maximum de patients. Et même un an après, des patients qui ont participé aux séances nous demandaient les nouvelles du chien qu'ils avaient, avec lequel ils avaient travaillé en séance. Et ils se rappelaient, ils parlaient de bons souvenirs. Donc même à long terme, on a observé des bénéfices, en tout cas dans le discours que pouvaient avoir nos patients. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on fait de la médiation canine. Et certains patients, je disais au-delà de 1 an, mais même au-delà de 4-5 ans, continuent à nous demander des nouvelles du chien médiateur.
Oui, le chien ou l'animal peut marquer la vie globalement. Et encore une fois, qu'on soit en médiation animale ou pas, d'ailleurs on le voit dans beaucoup de familles, où l'animal a une place assez centrale finalement.
C'est vrai.
On va redéfinir dans un instant. Je vous propose, on va écouter là dans un instant un extrait musical qui a été choisi. Je ne sais pas encore lequel. C'est Jean-Luc qui nous le diffusera et on va retrouver c'est lequel. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est dans un instant, on va définir la médiation animale. Parce que Céline nous le disait dès le départ, on a été obligé d'extraire une partie de ce qu'ont dit les gens qui faisait le lien entre animal et détection de l'épilepsie. Mais du coup, la médiation animale, c'est encore quelque chose d'un peu méconnu et je vous demanderai dans un instant, Audrey et Rachel, de nous définir ce qu'est pour vous la médiation animale. En attendant, on se fait un petit extrait musical et on écoute, je ne sais pas, mais on va se le redire en antenne, je vous redonnerai le titre dans un instant. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas en mémoire. Reste avec nous.
Da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita.
attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, so mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo.
È un dolore quando
vivo per lei dentro gli hotel,
un piacere estremo
vivo per lei nel vortice.
Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Alors avec toutes mes excuses, hein, j'avais pas reconnu Andrea Bocelli, mais c'est quand même important de rappeler qu'on vient d'écouter à l'instant. Et je crois que c'est Michel qui a choisi nos extraits musicaux aujourd'hui, Michel. Pourquoi tu as choisi d'écouter aujourd'hui Andrea Bocelli, de nous faire écouter Andrea Bocelli? Approche-toi du micro si tu veux bien.
Vu que c'est Italien,
ouais. T'aimes bien?
Oui.
T'aimes bien l'Italie. Bah, alors c'est vrai qu'un des autres morceaux qu'on écoutera tout à l'heure est aussi italien et on en reparlera tout à l'heure. Je rappelle qu'aujourd'hui dans Et puis c'est tout et jusqu'à 11h, on va parler ensemble et on parle ensemble de la médiation animale. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Morel. Je rappelle que vous êtes éducatrice spécialisée à la Masse et puis Grand Est. Et puis au téléphone, nous avons Rachel Lafont, psychomotricienne à la TEP. Et alors, à la TEP, Rachel, vous avez lancé un projet de recherche, une étude sur la médiation animale. Avant de nous en parler, j'aurais aimé, Rachel, que vous nous définissiez ce qu'est la médiation animale, parce qu'on l'a bien entendu, on l'a dit, il y a des idées, les gens commencent à avoir une petite idée vague de ce que c'est, mais concrètement, c'est quoi la médiation animale?
Alors, pour donner une définition, selon la fondation Pierre Fromer, la médiation animale, c'est une méthode qui va associer des animaux pour améliorer le bien-être ou accompagner des personnes atteintes d'épilepsie ou atteintes d'autres pathologies. La plupart du temps, les animaux choisis sont des animaux domestiques où, comme on disait tout à l'heure, on voit qu'il y a naturellement un lien qui pourrait se faire avec l'humain.
D'accord.
Ce qu'on voit dans la médiation animale, c'est qu'il y a des liens bienfaisants entre les animaux et les humains Et le but, c'est de prévenir, comme je le disais, par exemple, la dépression. Nous, on a évalué sur une échelle de dépression où se situaient nos patients. Et puis, il y a aussi des fins éducatives ou thérapeutiques. Quand il y a quelque chose qui est observé chez le patient, une pathologie, une difficulté, on va axer sur le côté thérapeutique pour améliorer le bien-être du patient.
Audrey, votre définition à vous de la médiation animale, j'imagine qu'elle rejoint pas mal ce que nous dit Rachel.
Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense exactement la même chose. C'est vrai que la médiation animale aussi, c'est pas seulement avoir un animal en face de soi, le caresser.
Oui, c'est ça.
Il y a vraiment tout un travail en amont pour pouvoir permettre l'accès à la médiation animale aux patients qu'on accompagne.
C'est-à-dire que si je comprends bien un peu concrètement, ça veut dire que globalement, on a une connaissance plus précise de l'animal et du rôle qu'il va pouvoir avoir auprès de l'homme, c'est ça ?
C'est ça.
Ce qui est, alors que quand on a un animal chez soi, on connaît son animal, mais on n'a pas idée de ce qu'il peut nous apporter.
Oui, surtout les animaux de la médiation animale, ils ont un petit truc pour la médiation, ils sont pas, c'est pas des animaux lambda. On va pas prendre le premier chien, le premier chat qui vient et dire ah bah hop, on va le mettre en médiation animale. Non, c'est vraiment réfléchi dans notre cas, par notre intervenante en médiation animale.
Oui, c'est un vrai travail qui est fait pour, sélectionner l'animal qui va pouvoir le mieux agir ou interagir avec la personne en fonction de ce qu'elle vit.
Voilà, c'est ça.
Rachel, je le disais, vous à la TEP, vous avez mené une étude.
Oui, c'est ça. Pour cette étude, on a filmé nos séances. On avait trois caméras dans la pièce et on a filmé toutes nos séances, de la séance numéro 1, où c'est le premier contact, où on rencontre les patients rencontrent le chien, jusqu'à la séance 10. Et donc, sur ces 10 séances qui ont été filmées, on a eu une étudiante en master éthologie qui a analysé ça et qui a observé qu'au fil des séances, il y avait de plus en plus d'interactions entre les patients eux-mêmes, entre les patients et le chien, donc que ce soit des contacts visuels, des contacts tactiles. Donc ce qu'on disait au niveau social, on observe que le chien a comme un effet catalyseur social. Il augmente la quantité et c'est ma propre opinion, et la qualité des rapports entre nous. Et également, ce qu'on avait fait, on a évalué les patients, on leur a fait passer des questionnaires avant de débuter les séances sur leur qualité de vie, on a fait une échelle de dépression, et aussi en post-séance, une fois qu'on a réalisé les 10 séances, on a fait passer les mêmes questionnaires pour voir s'il y avait une différence. Et effectivement, il y a une différence qui a été observée, où les patients, globalement, ont obtenu des points supplémentaires, c'est-à-dire se sentaient mieux d'un point de vue de leur qualité de vie et avaient moins de symptômes par rapport à la dépression. En tout cas, il y avait une amélioration sur ces deux échelles.
Donc, si je comprends bien, vous avez fait cette recherche finalement pour montrer l'impact réel de l'animal, c'est ça ? Et du chien, parce que à la TEP, vous avez choisi vraiment la médiation canine. Hein.
Oui, exactement. Et on a sélectionné aussi la race de chien, parce que avant de commencer cette étude, on a fait appel à deux personnes, une personne qui avait un border et une personne qui avait un labrador croisé golden. Et d'après les éducateurs canins qu'on a rencontrés, ils nous ont dit le golden croisé labrador, il a vraiment un attrait naturel pour l'humain, ça lui fait vraiment plaisir d'être là.
Ouais.
Et on a observé que le chien était plus adapté en séance, alors que le second chien, le border, lui, était plus fuyant dans les échanges et les patients étaient un petit peu frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas avoir autant de contacts qu'ils voulaient, parce qu'on était toujours dans une bienveillance auprès du chien. Le chien n'est pas disponible, on ne le sollicite pas. Donc on a sélectionné la race du chien et on s'est axé sur le chien parce qu'il y avait des études qui montraient, donc c'était pas dans l'épilepsie les études qui avaient été faites, mais des études qui montraient qu'il y avait un réel bénéfice. Et également, nous, à long terme, on pensait aux chiens détecteurs de crise, et c'est pour ça aussi qu'on a finalisé notre choix sur le chien.
C'est deux choses différentes, hein, pour être bien précis, le chien détecteur de crise du chien de la médiation animale, hein, c'est pas les mêmes objectifs.
Oui, totalement. C'est vrai que ce sont deux choses très, très différentes. Et pour la médiation animale, nous, les séances qu'on a fait, effectivement, c'est encore différent du chien détecteur de crise.
Alors, vous le disiez, vous voyez des effets aujourd'hui, hein, de cette médiation canine, vous avez pu l'analyser. C'est quoi les grands axes de résultats que vous avez obtenus de cette recherche ?
Alors, la première recherche qu'on a fait, en tout cas le premier projet qu'on a fait avec l'Université de Rennes, c'était vraiment sur le côté social, qualité de vie, dépression. Donc c'est exactement ça d'un point de vue quantitatif. d'un point de vue, comme on peut dire, avec des échelles validées. Après, nous, en séance, ce qu'on a observé avec ma collègue psychomotricienne avec qui je fais les séances, c'est que les patients sont plus calmes, ils sont plus disponibles pour les échanges, et aussi quelque chose qui a été vraiment très intéressant et que nous, humains, on a du mal à faire, mais que les chiens arrivent très bien à faire, c'est par rapport à la qualité des échanges. C'est-à-dire, il y avait des patients qui proposaient des choses qui n'étaient pas adaptées aux chiens, c'est-à-dire ils lui demandaient 5 fois de suite, 10 fois de suite, assis, couché, debout, et le chien, au bout d'un moment, en fait, se détournait de ses patients parce que la relation n'était pas intéressante pour lui et n'était pas adaptée, parce qu'il n'y avait pas un échange. Le patient demandait beaucoup et sollicitait le chien, mais le chien, lui, n'avait rien en retour, et au final, vu que le chien n'avait rien en retour, il finissait par se détourner, aller chercher le contact auprès d'un autre résident, où là, lui, il allait pouvoir gagner quelque chose dans la relation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous, thérapeutes, en séance, des fois, les patients ont des réponses qui ne sont pas toujours adaptées au niveau relationnel, mais étant thérapeute, on ne peut pas se détourner, on ne peut pas dire au patient « là, c'est pas possible, je vais quitter la salle parce que ça fait 10 fois que tu me demandes la même chose et je ne peux pas y répondre. » Et ce côté naturel du chien qui est dans le vrai, qui est dans l'authenticité, pas que nous, professionnels de santé, on n'y soit pas, mais on ne peut pas tout dire non plus à notre patient de ce qu'on pense de son comportement. Et là, les patients, ils sont arrivés à réguler leur comportement en fonction de ce qu'ils voyaient auprès du chien.
Ce que vous dites, pardon, c'est important. Ce que je comprends, en fait, c'est qu'en fait, c'est le chien lui-même qui arrive à faire comprendre au patient que là, attention, on n'est plus dans une interaction qui me convient. Donc, il faut que tu changes ta façon de faire.
Exactement. Et nous, thérapeutes, on va se dire, bon, il est en difficulté, ce patient, c'est pas grave, je vais répondre pour la 10e fois à sa demande. Mais du coup, peut-être qu'on a une marge de tolérance qui est trop élevée parce que sous couvert que le patient a des difficultés de compréhension ou n'importe quelle autre difficulté, on va prendre sur notre patience et on va répéter 10 fois, 15 fois. Mais du coup, ça laisse pas la possibilité au patient de s'adapter bien à la relation, alors que le chien... fait deux ou trois fois qu'il se détourne, le patient réfléchit, il se dit « Ah ben oui, c'est vrai qu'il ne se détourne pas de mon collègue qui est à côté, parce que mon collègue lui a demandé deux fois, après il l'a récompensé. » Et du coup, on a observé des modifications dans le comportement des patients qui ont totalement amélioré leur façon de communiquer et qui étaient dans un réel échange, en fait. C'est ça qui est difficile à avoir en tant que humain à humain. On peut pas toujours être dans cette authenticité parce que on est très tolérant, parce que on prend en charge le patient avec ses difficultés, mais le chien, lui, n'a pas conscience que le patient a une maladie, a des difficultés, donc il est le même avec tout le monde. Et ça,
j'allais dire, il est presque sans filtre, en fait, le chien à ce moment là et lui il réagit sans se poser de questions, quoi.
Exactement. Et ça, nous, les humains, on peut pas vraiment le faire.
Oui. Et puis, comme vous le disiez, en plus, quand on est un professionnel, on est là aussi pour accompagner. Donc, on peut pas forcément s'en détourner. Pour comprendre les séances, ça s'est passé comment? Ces séances groupées, c'est ça, avec le chien qui est là au milieu?
Oui, exactement. Donc, on a mis en place des rituels en début de séance et en fin de séance pour que les patients soient bien repérés. Là, on commence la séance, mais on termine la séance. Et on avait un groupe de 4 patients. On essayait d'avoir un groupe hétérogène, c'est-à-dire 2 femmes, 2 hommes. On a fait plusieurs groupes. Des fois, c'était pas toujours l'équilibre. Et en moyenne d'âge, on était autour d'une trentaine d'années. Nos patients avaient autour d'une trentaine d'années. On a fait 10 séances avec à chaque fois les mêmes thèmes pour pouvoir observer les mêmes choses, pour avoir une forme de régularité dans nos séances. Et à l'issue de ces 10 séances, les patients pouvaient dire au revoir au chien, et après on leur posait des questions, savoir s'ils avaient apprécié. Donc 10 séances, nous on a une salle de psychomotricité. Donc je dis nous, parce que ma collègue Mathilde Chalandard, qui a fait les séances avec moi, était présente. Donc on est 2 psychomotriciennes, un éducateur canin et le chien. Et le chien avait un espace pour lui, pour se reposer, parce que c'était très... très fatigant pour lui les séances, parce que 4 patients, c'était un peu inédit d'avoir un chien, enfin c'était même totalement inédit d'avoir un chien en séance. Donc l'éducateur canin a su pointer qu'il fallait un endroit de repos pour le chien, et ça aussi les patients se sont vraiment saisis de ce qu'on a pu leur faire part par rapport aux besoins du chien. Dire là le chien il est fatigué, il est parti se reposer, ça veut dire qu'on le sollicite pas, et ils sont arrivés à gérer la frustration qui a suivi en disant mais nous on est là pour être avec lui et lui il est pas disponible pendant 5 minutes, et vu qu'on leur a parlé des besoins du chien, ouais. Ils sont passés de « je suis frustrée, je ne peux pas être en contact avec lui » à « attention, on va prendre soin de lui ». Parce que des fois, d'autres résidents étaient capables de comprendre ça et d'autres moins. Et du coup, il y avait un peu ce qu'on a retrouvé dans le micro-trottoir de dire « on prend soin de quelqu'un ouais. » où d'autres patients prenaient cette responsabilité de dire « on ne sollicite pas, d'accord, on a envie d'être en contact avec lui, mais lui, il a besoin de repos, donc on respecte ses besoins. » Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant qu'il puisse passer de ce sentiment de frustration à quelque chose de très responsabilisant et de très juste en disant « moi, j'ai envie, mais là, le chien, on va respecter ses besoins, donc on attend un petit peu. »
Et puis, c'est quelque chose qui est transposable après dans la relation sociale humaine.
Exactement, exactement. Et c'est un thème qui est très important chez nous de faire comprendre aux patients que lui a ses propres besoins, mais aussi de comprendre que l'autre a des besoins. Et là, je trouvais que la relation en médiation animale, ça facilitait ce contact, parce que simplement, le chien, quand il n'était plus disponible, il tournait la tête ou il allait dans un coin de la salle. Donc, c'était vraiment très clair. Mmh. C'était des messages simples qu'il envoyait et qui, du coup, ont été bien compris par les participants.
En tout cas, on entend dans ce que vous nous dites que c'est hyper bénéfique et que cette étude, cette recherche que vous avez faite, elle a apporté des fruits que vous imaginiez peut-être ou même encore plus, non ?
Eh bien, oui, totalement. Parce que nous, on partait du principe, avec ma collègue psychomotricienne, on avait notre idée en tant que psychomotricienne, ouais. Ça allait améliorer la motricité, la connaissance du corps, des choses comme ça. Mais on n'imaginait pas que ça pouvait venir aider les patients à être plus en contact avec eux, à augmenter aussi les contacts avec le chien. Donc tout l'aspect social, en fait, ma collègue et moi, on l'a découvert. Et sur la qualité de la relation, ce que je disais, que le chien... il a une qualité de relation qui est authentique, il nous juge tous au même niveau, qu'on soit professionnel, patient, malade, pas malade. Et ça, vraiment, ça nous a permis de débloquer des sujets comme le respect des besoins de soi-même, les besoins de l'autre, la communication, comprendre que le chien, il est dans telle et telle émotion et que du coup, nous, on va s'ajuster. Donc ça nous a permis, nous aussi, de travailler des choses en séance que l'on n'arrivait pas vraiment à travailler juste en relation humain avec humain.
Alors, vous avez fait cette recherche, mais j'imagine que du coup, maintenant que vous en connaissez les bénéfices, ça ne s'arrête pas là pour vous. Vous allez continuer ou pas ?
Oui, c'est ça. Donc là, en 2026, on va poursuivre la recherche et on va faire un peu différemment. On aimerait vraiment isoler le côté médiation canine, c'est-à-dire qu'on va... En association avec une femme qui est spécialisée dans l'épilepsie. Qui est
un femme, c'est quoi, pardon ? Un femme pour les auditeurs qui ne savent pas ?
Pardon, c'est un foyer d'accueil médicalisé. Okay. Donc un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap et là, par rapport à l'épilepsie. Donc on va faire des séances de psychomotricité seule, sans chien, et des séances de psychomotricité avec chien, pour vraiment mesurer,
et comparer,
isoler cette médiation canine, et voir en plus de l'intervention des psychomotriciennes, qu'est-ce que le chien va apporter.
Ouais.
Donc ça, c'est notre projet pour 2026.
Très bien, et ben on le suivra, j'en suis sûr, avec cette émission. Je me tourne maintenant vers vous, Audrey. Là, on a parlé avec Rachel, on voit que c'est plutôt la médiation canine. Vous, à l'OHS, c'est la médiation animale plus largement, et je crois que vous avez plusieurs projets. Racontez-nous comment ça se passe du côté de la MASM, donc maison d'accueil spécialisée de l'OHS.
Alors déjà, du côté de la MASM, on inclut la médiation animale, on la décide par rapport au projet personnalisé des résidents, d'accord, en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs. On regarde si les apports de la médiation peuvent être positifs par rapport aux objectifs qui sont fixés. Donc suite à ça, on a plusieurs groupes, parce que la médiation animale à la MAS se fait en même temps à la MAS et à la ferme de l'intervenante.
D'accord.
Les séances au sein de la MAS, elles ont un but un peu plus thérapeutique pour répondre justement aux objectifs qu'on a vus dans les projets des résidents. Donc ça peut être aussi bien des objectifs un peu plus cognitifs, un peu plus moteurs. Et il y a un bilan qui est fait au bout de 6 mois. Donc là, actuellement, on a un groupe de 5 résidents qui profitent des séances à la MAS. Donc une séance à la MAS, elle va commencer par déjà l'installation de la salle, installer les tables, le tapis de fausse pelouse qu'on met dessus pour protéger. Ensuite, l'intervenante va nous déposer les animaux sur la table. Donc là, on a des lapins, des cochons d'Inde, on a eu des poules, on a eu un chat et bien sûr le chien. Alors, ce qui est assez drôle, nous, on n'a pas de golden, on n'a pas de labrador en chien. Ouais. C'est une taille miniature, mais qui fait aussi très bien le boulot, travail ouais. Et qui enchante aussi les résidents. Donc ensuite, ils vont avoir une petite partie un peu exercice cognitif. Donc des exercices avec déjà les résidents, puis après avec le chien, où on va le mettre un petit peu à l'épreuve. Et ensuite, la séance se termine par un moment un peu plus individuel, où chaque résident peut entre guillemets choisir un animal à avoir sur les genoux. Et là, c'est vraiment un temps de complicité, de caresse entre le résident et l'animal.
Et ben on va continuer de développer ça dans un instant. On va écouter Calogero en attendant et on va redévelopper ensemble comment ça se passe. Et on en reparlera aussi avec Michel qui nous racontera son expérience avec les animaux, que ce soit à la ferme ou à la masse. Là, on va écouter Calogero. Alors, le titre de la chanson qu'on a choisi, Michel, c'est quoi ?
En harmonie.
En harmonie. Et ben on l'écoute tout de suite sur RCN dans Et puis c'est tout.
Malgré nos vies différentes et nos envies si divergentes, nos petits oublis. Même si la vie nous égare l'un et l'autre à bien des égards, il y a ce répit. Sous nos pulls, la ville tout se rallume et s'illumine quand revient la magie. C'est juste un soir de décembre où toi et moi on est ensemble en harmonie. Malgré des hauts et des bas, des petits chaos, des grands débats, malgré les non-dits, nos caractères de travers et puis toutes les raisons diverses à tous nos dédits. Il y a dans l'air ce soir une magie belle à émouvoir le plus dur des bandits. C'est juste un soir de décembre où toi et moi on est ensemble en harmonie. On se dispute, on diverge, on se disute, on se disperse, on s'éloigne et puis si l'on s'invite, on se blesse et l'on s'évite et l'on se laisse, on se fuit aussi. Mais sous nos pulls au vert, il y a toujours ce soir d'hiver qui nous ramène ici. C'est juste un soir de décembre où toi et moi on est ensemble en harmonie. On se fâche, plus on est proche, plus on est vache et pourtant sous le lit. Que veux-tu qu'on y fasse, il nous remettra face à face ce lien qui nous unit. C'est beau comme toi et moi ce soir on se ressemble. Et là remets ton manteau, je sens que tu trembles. C'est juste un soir de décembre où toi et moi on est ensemble en harmonie.
Sur RCN, et puis c'est tout.
L'émission consacrée aux épilepsies, et aujourd'hui nous parlons de médiation animale avec Rachel Lafont, psychomotricienne à la TEP, et Audrey Morel, éducatrice spécialisée à la Masse Épigrontaise. Et puis tout à l'heure, Michel Thirion, qui est résident de la Masse, nous racontera plus précisément comment il vit cette médiation. Audrey, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous avez mis en place cette médiation animale. Qu'est-ce qui est venu d'un coup? Vous vous êtes dit, tiens, et si on essayait ça?
Alors, à la base, quand je suis arrivée à la Masse, j'ai remplacé une ancienne éducatrice qui venait avec ses chiens.
Ouais.
Et du coup, de ce que j'en avais entendu parler, ça avait beaucoup marqué les résidents. Ils s'étaient pris d'affection pour les chiens. Et c'est vrai que son départ avait fait un gros, gros manque.
Ouais.
Et les résidents étaient vraiment en demande d'avoir des animaux au sein de la Masse.
Donc, en fait, vous partez déjà du constat de l'impact qu'a l'animal sur le patient, là, quand vous faites ça.
C'est ouais. Tout à fait ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire rentrer la médiation animale au sein de la Masse. Donc, pendant un an, on a eu un contrat avec une première médiatrice.
Ouais.
où pareil, ça s'était très bien passé. Les résidents étaient heureux de retrouver les animaux. Et là, depuis 2 ans maintenant, on a rechangé d'intervenante. Ouais. Mais ça se passe toujours aussi bien. Et en plus, là, on peut aller à la ferme. Donc, ce qui est encore plus une plus-value pour les résidents.
Donc, l'enjeu, si je comprends bien, c'était de se dire, bah, puisqu'on s'est rendu compte que l'animal, les chiens de vos prédécesseurs, finalement avait un impact sur le bien-être des patients, refaisons la même chose et essayons de trouver un bien-être. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres objectifs à ça quand même en plus.
Oui, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on part toujours des besoins des résidents. Ouais. C'est vraiment le résident qui est au centre du projet et donc on fait ça pour eux. Et c'est vrai qu'il y a aussi y a un objectif de bien-être, mais aussi des objectifs un peu plus moteurs au niveau de l'appréhension, au niveau du toucher. On a des résidents qui ont parfois des difficultés et c'est vrai qu'au contact des animaux, les difficultés disparaissent ou alors sont amoindries. Et ça, c'est vrai que c'est génial.
Quel type de difficultés, par exemple? Vous pouvez nous donner des exemples
on a un résident qui tremble beaucoup des bras. Et c'est vrai qu'une fois, on était en séance à la ferme et sans s'en rendre compte, notre intervenante avait un lapin dans les bras et on lui a dit, ce résident, essayez de toucher le lapin. Et c'est vrai que ça l'a fait réfléchir à comment je peux mobiliser mes bras sans trembler pour ne pas blesser justement le lapin, parce que je sais que mes tremblements sont forts, et comment moi-même je peux ne pas me mettre en difficulté. Et c'est la première fois qu'on le voyait approcher un animal sans trembler. On voyait qu'il a fait un effort sur lui-même pour y arriver, mais c'était un très beau moment. Et maintenant, on sait que quand il vient à la ferme, il prend sur lui pour que les tremblements soient vraiment minimes.
Et quand vous parlez des objectifs cognitifs aussi que vous souhaitez atteindre avec la médiation animale, c'est quoi plus précisément?
Alors, ça va être surtout au niveau de la gestion des émotions, parce qu'on sait très bien que des émotions trop fortes peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Mm-hmm. Ça peut être aussi au niveau de la frustration, de dire, mince, l'animal ne vient pas vers moi, tant pis, il viendra peut-être un peu plus tard.
Oui, ce que disait Rachel tout à l'heure.
Exactement.
Ouais. Mm-hmm.
Ou alors, ça peut être aussi les animaux qui font revenir des souvenirs aux résidents. Moi, j'ai des chiens chez moi où j'avais un chien, il était comme ci, il était comme ça.
Et ça favorise la communication à ce moment-là?
Oui, ça favorise la communication, justement l'échange entre les résidents, mais aussi l'échange entre nous, les professionnels, et avec l'intervenante.
Et la mémoire.
Et la mémoire,
oui.
Je trouve intéressant effectivement cette idée que ça permette aussi aux personnes, j'aime beaucoup l'exemple de, c'est physique, mais de cette personne qui tremblait beaucoup, mais c'est même stupéfiant d'imaginer que l'animal lui permet de mobiliser assez de ressources pour faire quelque chose qu'il ne fait jamais normalement.
En temps normal, ces tremblements sont très difficiles et même lui, ça l'handicape dans la vie de tous les jours. Il se sent en échec par rapport à ça. Et c'est vrai que là, avec le lapin, c'était extraordinaire de voir. C'était court, mais c'est beau et c'est pour ça que...
Et puis c'est une victoire quelque part pour lui.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi mis la médiation animale en place.
De quoi en tirer une fierté. Il y a une question, parce que c'est vrai qu'on parle d'épilepsie, il y a une question qu'on n'a pas encore posée, et là je vous la pose à vous Audrey, mais aussi à vous Rachel. Quand on parle d'épilepsie, est-ce que l'animal permet de limiter la crise? Parce que encore une fois, puisqu'on parle d'épilepsie, il y a les crises qui vont avec. Est-ce qu'on connaît un impact de l'animal et de la médiation animale sur la crise elle-même?
Alors moi je sais que quand je suis en séance, j'ai très peu de crises d'épilepsie par rapport à ce qui peut être en général dans le quotidien de la masse. Après, si une crise doit survenir, elle est là, on peut pas l'empêcher, et voilà, on fait avec. Mais c'est vrai que moi en séance, j'ai eu très peu de crises.
Rachel, de votre côté, au niveau des crises d'épilepsie, c'est quelque chose que les chiens permettent aussi de limiter ou pas?
Eh bien, pour les crises qui peuvent être en lien avec des états émotionnels, par exemple de la frustration, du stress, des choses comme ça, si on a identifié des patients qui faisaient plus de crises quand ils étaient stressés, quand ils étaient moins bien. Donc oui, on peut imaginer un lien entre le fait de faire des séances qui font du bien, qui apaisent le patient, et le fait qu'il fasse moins de crises. En séance, on a remarqué assez peu de crises. Les crises qui ont été observées, c'était chez une patiente qui faisait beaucoup, beaucoup de crises.
Et pas forcément liées aux émotions, justement.
Qui n'étaient pas forcément liées aux émotions, en effet. Ça, c'est ce qu'on va observer, nous, dans la deuxième étude. Ça a été observé dans la première étude, mais j'aimerais pas vous dire de bêtises. J'ai plus en tête, on a fait un relevé de crise avant, après les séances. Mmh. Mais j'ai plus en tête les résultats exacts, donc je vais pas vous donner.
Oui, mais on peut imaginer que ça puisse avoir un impact, même s'il est léger, ça a un impact quand même.
Oui, voilà. Oui, ça c'est sûr. Et je me permets de rebondir sur,
bien sûr,
sur ce que disait ma collègue qui travaille en masse et Audrey, pardon, que il y a vraiment un enjeu, nous, au niveau de la rééducation chez des patients qui présentent une épilepsie pharmacorésistante.
Ouais.
L'épilepsie, là, c'est une maladie chronique et on propose des séances de rééducation aux patients. Et les patients vont parfois rester 5 ans, disons 20 ans dans un établissement de soins où des séances de rééducation sont proposées. Il y a une réelle difficulté des fois à faire face au manque de motivation des patients parce qu'ils ont fait déjà pendant des années des séances de kiné, d'ergo, de psychomote. Et ils ont un peu fait le tour de tout ce qu'on peut leur proposer. Et des choses comme la médiation animale, ça peut redonner un élan, ça peut redonner une motivation. Et la motivation, c'est vraiment un élément clé pour que le patient travaille en séance et qu'il y trouve aussi son intérêt. Et là, c'est un intérêt total. Le patient, plutôt que de lui faire lever le bras 50 fois sans objectif, enfin, l'objectif est là d'un point de vue, par exemple, de la kinésithérapie, mais pour lui, ça ne signifie rien de lever le bras 10 fois. Par contre, s'il doit tendre les bras pour prendre un lapin ou pour prendre un animal qui est petit, qui est fragile, et si c'est important à ce moment-là de maîtriser un peu plus sa motricité pour pas trembler, bah, je trouve que c'est totalement gagné, parce que le patient est motivé, et en plus, on rajoute du sens à la motricité qu'on va lui faire à travers cette séance. Donc d'un point de vue motivation, c'est tellement important que nos patients restent motivés.
Ce que je vous propose, Rachel, justement, on va demander à Michel, puisque Michel habite la Masse et puis Grand Est. Michel, donc vous bénéficiez, vous participez à la médiation animale. Est-ce que justement c'est quelque chose qui vous motive? Est-ce que vous êtes heureux d'aller au contact des animaux?
Oui.
Ça vous donne envie?
Oui.
Racontez-moi, comment ça se passe pour vous, Michel, la médiation animale? Qu'est-ce que vous faites avec les animaux? Là, je vois que vous avez des photos sous les yeux, par exemple. Qu'est-ce que vous leur faites faire aux animaux? On parlait tout à l'heure de jeux avec le chien, par exemple. Vous faites quoi avec le chien?
On leur cache des croquettes dans le tapis de fouille.
Ouais, et ça vous plaît?
Oui.
Qu'est-ce qui fait le chien à ce moment-là?
Il vient chercher les croquettes.
Ouais. Alors je vois qu'il y a plein d'animaux aussi en photo là. Racontez-moi, il y a quoi comme animaux avec lesquels vous êtes en contact?
Des cochons d'Inde.
Ouais. Et quoi d'autre? Tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé d'autres animaux. Vous vous souvenez?
La chèvre.
Ouais.
Alpaga. Âne. Poney.
Ouais. C'est pas mal déjà, hein? Et je vous ai posé une question et vous m'avez répondu tout à l'heure, je peux pas répondre, mais je vais vous la reposer. Est-ce qu'il y a un animal que vous préférez, Michel?
Le chien.
Ah! Alors là, Michel me surprend, parce que tout à l'heure, quand on préparait l'émission, Michel m'avait dit, j'ai pas de préférence, je les aime tous. Et là, maintenant, c'est le chien.
J'ai des chiens chez moi.
Ah, voilà. Vous avez des chiens à la maison, chez vous, chez vos parents?
Ils sont divorcés.
D'accord, mais vous avez quand même des chiens?
Oui.
Et donc, globalement, vous aimez bien les chiens, alors?
Oui.
Comment il s'appelle le chien qui est à la que vous voyez à la masse?
Tommy.
Et vous l'aimez bien, Tommy?
Oui.
Ouais. On voit, hein, effectivement. Alors, je suis très content d'entendre que Michel a changé d'avis. Je le trouvais presque politique tout à l'heure quand il me disait « je les aime tous » et là, maintenant, il me dit « non, bon, c'est le chien ». Merci, Michel, pour ce témoignage. On sent bien, effectivement, que ça a un rôle important. Hein, Michel, je vous avais un sacré sourire quand vous parlez des animaux. Ça vous rend heureux?
On va dire ça.
On va dire ça. Les auditeurs le voient pas, mais je vous garantis, il a un grand sourire. Ça fait du bien. On s'aperçoit effectivement, hein, de l'impact de l'animal. On vous souhaite de continuer à avoir plein d'animaux et en caresser plein, à jouer avec des animaux. On rappelle effectivement aussi, le respect de l'animal est très important. Audrey, Rachel, c'est très très important, hein, de respecter l'animal dans le cadre d'une médiation animale.
Oui. Nous, on a appris beaucoup grâce à notre éducateur canin qui nous suit depuis le début, qui nous a aidé à décrypter la communication du chien, un chien qui baille, qui se gratte, c'est pas forcément ce qu'on pense, il peut avoir des puces, il peut être fatigué, ça peut être des signes de stress, et elle nous a aidé à décrypter la communication du chien. Et du coup, les patients ont très bien compris les signes que peut montrer le chien s'il est fatigué, s'il a besoin d'un temps de repos. Et on a été très vigilants à ça pour rester dans les besoins du chien. Et comme vous dites, après, eux-mêmes, les patients ont pu faire un pont entre eux, moi, quels sont mes besoins et comment je peux les respecter.
Et puis ceux des autres aussi. Merci à toutes les deux, c'était passionnant et malheureusement l'émission se termine déjà, mais c'était passionnant d'échanger avec vous. On va juste dire, Céline, il y a quelques références qu'on peut aller consulter.
Rapidement, quelques ressources. Ouais. Un ouvrage, Pratiquer la médiation animale dans le secteur social et médico-social par Chloé Zimmer-Bauer. La fiche pratique de la recherche de la TEP, la médiation animale, un support thérapeutique en épilepsie. Et puis pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le secteur, les partenaires avec lesquels travaillent nos témoins, peut-être c'est pas une association, mais Des Pattes d'Amour et Street Dog Éducation. Et avant de laisser l'antenne, Thomas, si tu me permets, nous sommes en fin de deuxième saison, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc il est important de remercier tous ceux qui travaillent avec nous.
C'est vrai.
Dans le cadre de ce projet, ce qui nous aide à définir les sujets, à rechercher les témoins et à réaliser le micro-trottoir, je vais le dire. Donc, on a les trois associations, Épilepsie France, Accueil Épilepsie Grand Est et la Fédération EFAP. Les infirmières en pratique avancée du Centre de référence des épilepsies rares du CHRU de Nancy et on l'espère peut-être bientôt, celle de Reims. Et puis, surtout, Corentin et Ségolène, merci, mille merci à Corentin et Ségolène qui sont concernés par l'épilepsie et qui réalisent depuis quelques émissions maintenant en autonomie le micro-trottoir et qui nous aide aussi pour toute la préparation de cette émission.
Voilà. Eh ben super, c'était important de remercier tout le monde. La troisième saison arrivera au mois de février et on est très très heureux. Il me reste à vous remercier Rachel Lafont, psychomotricienne à la TEP. Merci d'avoir participé à cette émission, Rachel.
Merci, avec plaisir.
Et continuez, voilà, avancez sur ces recherches qui sont passionnantes. Merci Audrey Morel, éducatrice spécialisée à la masse épi Grand Est. Pareil, un super boulot avec les animaux et les patients. Merci à vous d'être venu nous le raconter. Merci Michel d'être venu témoigner à notre micro. Merci beaucoup, on était très contents de vous avoir.
Merci à vous.
On vous souhaite à tous une très belle journée. Continuez comme ça. Belle journée à tous et au mois de février pour un prochain. Et puis c'est tout.
Bye.